Nous allons faire beaucoup de lectures dans la Bible aujourd'hui. Donc vous savez bien que j'aime bien qu'on suive les textes dans la Bible. Et ce n'est pas parce que j'aime bien qu'il faut le faire. C'est tout à fait normal, hein. Un pasteur africain dans une église avait dit comme ça, c'est la foule, et il avait dit que ceux qui n'ont pas de Bible s'asseyent à côté d'un chrétien. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que le signe, un des signes distinctifs du chrétien, c'est la Bible. Et quand ça vient d'avoir dans sa mallette ou sur une étagère, mais c'est bien de l'avoir sur ses genoux, et c'est bien de l'ouvrir et de suivre. En Afrique, ils n'ont pas autant de Bibles que nous, hein. Même s'il y en a plus maintenant, nous en avons. Donc, nous n'avons aucune excuse. Ceux qui étaient à la réunion de prière, quand ça se fait chez nous la dernière, vous allez réentendre ce que vous avez déjà entendu. Alors, nous allons commencer nos lectures dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Si vous voulez m'aider, hein, c'est l'épisode où Abraham chasse, où Abraham renvoie Ismaël avec Agar. Ah, j'ai inversé les chiffres. Hein. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, vous connaissez ce qui précède, hein? Mais au verset 14, il est dit que Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Il la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'âge. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer. Tout haut. Et voici sur quoi je voulais attirer votre attention. Dieu entendit les cris de l'enfant. Dieu a entendu le cri d'Ismaël. Donc aujourd'hui on va beaucoup parler de ce que Dieu entend. Dans le psaume 116, qu'est-ce qu'il est écrit? Un psaume que nous chantons. Qui connaît? Tout le monde connaît. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Voilà. Il a penché son oreille vers moi. Donc dans ce psaume, on lit à nouveau que Dieu, il entend. Mais ici, dans le psaume 116, Dieu entend un psalmiste ne sais pas de qui est ce psaume, c'est un psaume anonyme, mais vu ce qu'il a écrit, c'est certainement quelqu'un de pieux. Donc Dieu, le Seigneur entend la voix du psalmiste pieux. Et dans la première lecture que nous avons faite, Dieu, il a entendu la voix de qui? Il a entendu la voix d'un enfant. Et la voix de quel enfant? Là, il a entendu la voix d'Ismaël. Et Ismaël, qu'est-ce que c'était pour un enfant? Ismaël, c'était un bâtard. Ismaël, c'était un bâtard. Ça, c'est un mot qui est dur. Bâtard. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas de race pure. C'est quelqu'un qui est mélangé. Et c'est une insulte dire à quelqu'un que c'est un bâtard. Mais nous perdons mes notes. C'est plus loin que je devais arriver à ce passage-là. Je vais essayer de mieux courir. Et dire que c'est enregistré.
Ça dépose.
Dans les psaumes, si nous avons une concordance, eh bien, on peut facilement trouver plusieurs versets qui nous disent que l'Éternel entend. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher ici. Par exemple, dans le psaume 4, verset 4, il est écrit « L'Éternel entend quand je crie à lui ». Au psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Au psaume 94, verset 9, il est écrit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ?» Ça veut dire que c'est normal que Dieu entende. C'est lui qui a planté l'oreille. Au psaume 5, au verset 4, il est écrit « Le matin, tu entends ma voix. » Ça veut dire que le Seigneur, il ne fait pas la grâce matinée. Au psaume 18, verset 7, il est écrit « De son palais, il entend ma voix. » Sur la terre, il y a beaucoup de palais. Mais tous les palais n'entendent pas la voix des citoyens. C'est plus moral. Au psaume 6, verset 9, il est écrit « L'Éternel entend la voix de larmes. » Et j'avais dit que notre pasteur avait un jour prêché sur ce sujet-là. Il est dit « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » Ce n'est pas écrit « Il entend la voix des sanglots. » Les sanglots, on les entend. Mais une larme qui coule, ça ne fait pas de bruit, personne ne l'entend. On sait que quelqu'un a versé une larme quand il commence à renifler. Parce qu'il a versé quelques larmes. Mais une larme qui coule, ça ne fait pas de bruit. Et cependant, le Seigneur, lui, il entend. Une larme qui coule. Donc j'ai déjà dit qu'au psaume 116, le Seigneur entend la voix du psalmiste pieux. Mais que, en Genèse 21, il entend la voix d'un enfant bâtard. C'est un terme très injurieux, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un terme chargé de mépris. Un mépris dont on peut déjà se rendre compte dans la bouche de Sarah. Et dans mes notes, j'ai indiqué Sainte Sarah. Je l'ai quand même mis entre guillemets. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Au verset 10 du chapitre 21. Elle dit, chasse cet esclave et son fils, car ce fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils Isaac. Elle connaissait le prénom du gamin. Mais c'était dur pour elle de dire Ismaël. C'était dur. Le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils. Je ne sais pas comment vous recevez cette parole, mais il y a pas mal de mépris. C'est comme ça que je le ressens. Ça n'a certainement jamais été facile d'être bâtard. L'actualité de notre pays nous le rappelle encore ces temps-ci avec une princesse. Pourtant, le bâtard, il n'est pas responsable d'être bâtard. C'est la faute de quelqu'un d'autre, de deux quelqu'un d'autre. Quand j'étais gamin, je l'ai dit aussi à la réunion prière dans notre village à Souvrévent, il y avait un gamin bâtard. C'était le souvenir d'un soldat américain qui était de passage. Et je me souviens que nous avons été cruels avec lui. Il s'appelait Joseph. Et on lui en a fait boire de toutes les couleurs. Par exemple, on lui envoyait son ballon dans les orties. Par exemple, quand on jouait et qu'il y avait des flaques d'eau, c'est lui qui devait aller rechercher le ballon dans l'eau s'il voulait continuer à jouer avec lui. Et c'est certain que si aujourd'hui je rencontrais le petit Joseph de Souvrément, je lui demanderai pardon parce que il a été notre souffre-douleur. Les bien-pensants se croient permis de mépriser le bâtard. Mais le Seigneur, il voit la chose autrement. Le Seigneur, il entend ses cris. Il a entendu le cri d'Ismaël. Donc le Seigneur, il entend la voix du psalmiste pieux, mais il entend aussi la voix du bâtard méprisé. Mais le Seigneur, il n'entend pas que les pleurs, il n'entend pas que les cris, il n'entend pas que les prières, il n'entend pas que la larme qui coule. Et nous allons arriver à notre texte principal, qui se trouve dans Nombre 12. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne. Nous allons d'abord lire les trois premiers versets. Il est question ici de quelque chose, il est question aussi de quelque chose que le Seigneur a entendu. Et qu'il a entendu contre qui, et qu'il a entendu de la part de qui. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite ou éthiopienne qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Donc ici, le Seigneur, il a entendu Myriam et Aaron qui parlent contre Moïse. Et la suite, à partir du verset 4, nous en lirons qu'une partie un peu plus tard, la suite montre que c'est dangereux de parler contre un serviteur de Dieu. Nous voyons à partir du verset 9 ce qui s'est passé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuit se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. C'est dangereux de s'attaquer à un serviteur de Dieu. Myriam a été frappée de la lèpre. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est préférable, si c'est d'être lépreux ou de mourir. Car la vie de l'aider lépreux à cette époque-là, ce n'était pas une vie. Donc, on pourrait déjà dire, attention, petite lèvre, à ce que vous dites. Qu'elle soit pulpeuse ou fine, ça n'a pas d'importance. Attention, petite bouche, à ce qui en sort, parce que ça peut te coûter cher. Dans le Nouveau Testament, Jésus a donné de nombreux enseignements très solennel aux paroles, à propos des paroles qui sortent de notre bouche. Et nous allons maintenant lire quelques textes dans les évangiles. Par exemple, dans Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 3. Et bien entendu, celui qui n'a pas de Bible, ben, il ne sait pas déguster ces vérités-là comme ceux qui savent suivre. Parce que nous ne sommes pas venus écouter une parole d'homme, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venus écouter Ernest, vous ne saviez même pas que c'était Ernest qui parlait. Je suppose, j'espère que vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Alors, il faut la prendre avec vous. Il vient de vous taquiner, hein? Donc, dans Luc, au chapitre 12, qu'est-ce qu'il est écrit? Tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera proclamé sur les toits. Et qu'est-ce qu'il y a encore dit dans Matthieu 12, cette fois-ci, à partir du verset 36. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. On sait tous bien, demain, j'espère que nous savons tous ici, en tout cas tous ceux qui sont convertis, que c'est écrit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, c'est un don de Dieu. Mais ici, il est quand même écrit que, en effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Et qu'est-ce qu'il est écrit au verset? Deux versets plus haut, à la fin du verset 24. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Dans d'autres versions, il est écrit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, question. Faire attention, mais faire attention à seulement nos lèvres, ou seulement à nos bouches. Nous avons déjà lu la fin du verset 34. C'est, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour cette raison que le sage Salomon a écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Il y en a certainement ici qui connaissent ce verset qui a été mis en musique. Jacques a essayé de me le faire chanter, mais certainement que, même s'il le connaissait, qu'il n'aurait pas reconnu, parce que c'était tout fou. Donc, c'est pour cette raison que le sage Salomon a écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, finalement, la bouche, les lèvres, ce n'est que la voix naturelle qui vient révéler ce qui est à l'intérieur. C'est le canal, ce n'est rien d'autre que le canal qui amène à la surface le contenu du cœur. Et notre pasteur, ce jour-là, en bon connaisseur de la parole de Dieu, nous a rappelé ce qui était écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 3, que je vous invite à ouvrir et à lire, et que vous connaissez, mais qui n'est certainement jamais superflu de rappeler, même si ça ne fait pas du bien à entendre. Parce que peut-être que nous le connaissons. À partir du verset 7, il est écrit ceci. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Peut-être que vous vous souvenez d'un accident d'avion en 2009. Dans un Airbus qui faisait la liaison Paris-Rio, et qui s'est abîmé dans l'océan Atlantique et qui a coulé à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Pendant des jours, pendant des mois, on a cherché les boîtes noires. Mais savez-vous que les boîtes noires, elles sont oranges? C'est pas pourquoi ils appellent les boîtes noires. Mais toutes ces boîtes qu'on appelle noires, elles sont peintes en orange. Ces boîtes ont été recherchées par des sous-marins de l'armée et finalement on les a trouvées, on les a ramenées à la surface. Et les experts ont entendu, comme s'ils étaient dans le cockpit des pilotes, les dernières paroles qui ont été échangées. Ces paroles qui étaient enfouies à des milliers de mètres de profondeur, qui ont séjourné longtemps dans l'eau salée, qui ont subi des pressions inimaginables à des milliers de mètres de profondeur. Elles ont résisté et elles ont livré leurs secrets. La Bible ne parle pas vraiment de boîte noire, mais il y a quand même quelque chose de ça. Si nous lisions, par exemple, dans Apocalypse 20, ne cherchez pas. Vous pouvez chercher, c'est Apocalypse 20, les versets 12 et 13. C'est l'épisode du grand trône blanc. Où il y a l'agneau qui est assis sur le trône. Et où on amène un livre qui est le livre de vie. Et où on amène aussi les livres où sont consignés tous les gestes de tous les vivants de tous les temps. Et le jugement est écrit, qui est rendu selon les œuvres de chacun. Donc, dans le ciel, dans l'éternité, il y a aussi des boîtes noires. Et un jour, ce qui a été dit dans le secret des chants, ce qui a été donné à l'oreille, sera ramené à la surface. Mais on va continuer. Donc, le Seigneur, il a entendu Myriam et Aaron qui murmuraient. Mais qui murmuraient contre qui? Ben, ils murmuraient contre le petit frère Moïse. Et est-ce que les reproches adressés à Moïse étaient justifié, parce que ce n'est pas parce que c'est un serviteur de Dieu que il peut être sans reproche. Ça arrive que les serviteurs de Dieu sont reprochables. Mais est-ce que dans le cas de Moïse, c'était justifié? On a déjà lu au verset 3. Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Et qu'est-ce qu'on lit encore plus loin, à partir du verset 6? Écoutez bien mes paroles, Aaron et Myriam. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je m'y parle directement, je me révèle à lui, donc je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel Comment se fait-il que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Le prétexte, c'était la femme éthiopienne, la femme couchite que Moïse avait épousée. Mais la vraie raison du murmure, c'est quoi? La vraie raison, c'est la jalousie. La jalousie. C'est la relation particulière et privilégiée que Moïse avait avec le Seigneur. Car le Seigneur, car Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il est vrai que Moïse jouissait d'un statut très élevé, très privilégié, peut-être le statut le plus élevé. Mais est-ce que Myriam et Aaron étaient pour autant à zéro? Est-ce que Myriam et Aaron ne jouissaient d'aucune considération pour pouvoir être jaloux de leur frère comme il était? Qu'est-ce qui est dit de Myriam, la grande sœur de Moïse, après la mer Rouge? Je vous épargne, je vais vous dire la référence. Dans Exode 15-20, après le passage de la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a entonné un chant, c'est peut-être le premier psaume de la Bible, et Myriam est sortie avec son tambourin, et toutes les femmes l'ont suivi. Myriam, c'était une femme qui avait de l'influence sur les autres femmes. Et il est dit en Exode 15-20 que Myriam, la prophétesse, c'était pas Madame tout le monde, c'était Madame la prophétesse. Elle avait un statut particulier. Elle était une sorte de leader qui savait entraîner dans la louange les autres femmes du peuple d'Israël. Mais pour Myriam, c'était trop peu à côté de ce que Moïse avait. Et qu'est-ce qu'il est dit d'Aaron? Nous savons qu'Aaron, c'était le souverain sacrificateur. C'était le plus haut représentant du peuple de Dieu. Et si on lisait la description, si on relisait la description des habits d'Aaron, ses habits de souverain sacrificateur, avec quels étoffes il était habillé, avec quels bijoux, avec quel trésor il était paré. Ses seuls habits parlent de sa dignité, de la grandeur de sa dignité. C'est le sacrificateur le plus élevé en dignité. Mais pour Aaron, c'était trop peu. C'était pas assez par rapport au petit frère Moïse. Myriam et Aaron n'ont pas osé dire la vraie raison de leur murmure. Ils n'ont pas osé dire, Seigneur, nous on est jaloux. Ça ne se dit pas. Hein. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend que la jalousie, c'est un vilain défaut. Alors, on invente autre chose pour couvrir le vrai prétexte. Ça, c'était pour Myriam et Aaron. Mais qu'en est-il de nous? Quand nous critiquons, quels sont les motifs réels de nos critiques? Est-ce que c'est vraiment ce que nous avançons comme raison? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que nous ne nous ont pas dit? Et si nous ne nous ont pas dit, dire la vraie raison, c'est parce que nous savons que c'est pas correct. Voilà. Si c'était juste, on le dirait. Alors, comment justifions-nous, par exemple, notre présence ou notre absence aux activités de l'Église? Je suis vieux, je suis malade, je n'ai pas le temps. Ceux qui sont vieux maintenant, il y a 20 ans, 30 ans, n'étaient pas vieux, mais ils ne venaient quand même pas aux études physiques. Et ceux qui sont malades maintenant n'ont pas toujours été malades non plus. Mais quand ils étaient en santé, ils ne venaient pas aux études bibliques non plus. Alors attention aux justifications que nous donnons. Parce que le Seigneur entend, le Seigneur connaît toutes choses. Est-ce que par exemple, nous sommes... La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit que chacun a reçu un don pour l'édification commune. Est-ce que nous sommes contents du don que nous avons reçu? Est-ce qu'on a envie du don de l'autre? C'est tout juste si on ne dit pas, Seigneur, tu t'es trompé, hein, ce don-là, c'est à moi que tu aurais dû le donner. Je sais mieux que toi, Seigneur. Donc, ici, nous avons vu le cas où je suis critiqueur. C'était le cas de Myriam et d'Aaron. Mais maintenant, arrivons au cas où moi, je suis critiqué, où moi, je suis la victime, ce qui est le cas de Moïse. Alors, comment vais-je réagir? Est-ce que je vais rendre coup pour coup? Ça, c'est le minimum, hein? Ou bien est-ce que, comme on dit dans le monde, pour une dent, toute la mâchoire, hein? Ou bien est-ce que je vais attendre en silence, en serrant les dents, et servir le plat quand il sera froid? Servir le plat de la vengeance au moment où on s'y attend le monde. C'est un dicton qu'on n'entend pas souvent, mais qui est très, très éloquent. Et qu'on dit quand on a été blessé, surtout injustement blessé. Je lui garde un chien de sa chienne. Je lui garde un chien de sa chienne. Ou bien est-ce que je vais tout plaquer, parce que j'ai été critiqué, et aller bouder tout seul dans mon coin? Ou bien jouer mon petit Casimiro? Ou bien est-ce que je vais remettre tranquillement ma défense entre les mains du Seigneur? Si je sais que je suis innocent de ce dont on m'a accusé. Dans Romains 12, 19, on va le lire, Romains 12, 19, c'est une citation de l'Ancien Testament. C'est une citation de l'Ancien Testament. On ne connaît pas la référence, mais on connaît le texte. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Alors comment est-ce que Moïse a réagi face à la lettre de Myriam? Il faut revenir au texte principal, hein, dans Nombre 12. Comment est-ce que Moïse a réagi? Au verset 13. Nombre chapitre 12, verset 13. La réaction de Moïse. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et 1500 ans plus tard, dans le sermon sur la montagne, Jésus donnera le même enseignement. Matthieu 5, 44. « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Et Jésus, sur la croix, mettra en pratique ce qu'il a enseigné sur la montagne du sermon. Sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 59, Étienne, le premier martyr chrétien, qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, ne les charge pas de ces péchés, ou ne leur impute pas ce péché. Voilà la réaction de Moïse face à la critique de Myriam et Aaron. Mais ces critiques, on va continuer à analyser le texte principal, ces critiques, elles viennent de la part de qui ? Ben, on sait bien. Elles viennent de la part de la gentille Myriam, la grande sœur qui veillait sur la corbeille du petit frère qui dérivait sur le nid. Le courant emportait la corbeille, j'imagine ici, hein. Le courant emportait la corbeille, et Myriam, je l'imagine, qu'elle marchait le long de la berge, peut-être parmi les roseaux, qu'elle courait, peut-être que parfois elle courait aussi. En tout cas, elle ne quittait pas des yeux la corbeille où on avait déposé le petit frère Moïse. Myriam, c'est la grande sœur audacieuse qui a osé s'adresser, qui a osé adresser la parole à la fille de Pharaon, qui s'est d'abord approchée d'elle et qui a osé lui parler. Myriam, c'est la bile Myriam. Je l'ai mis entre guillemets parce que je ne sais pas si c'est le mot bien choisi. C'est finalement la grande sœur qui s'est adressée de façon sage à la fille du Pharaon quand elle a dit en Exode 2:7, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?» Ça vient aussi de la part du grand frère Aaron, à propos duquel Dieu dit, ici il faudra un petit peu retourner dans l'histoire, quand Moïse revient en Égypte et qu'il cherche toutes les excuses pour ne pas y aller, à un moment donné, Dieu lui dit, tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir l'aide de ton frère Aaron. Et il est écrit, quand il te verra, il se réjouira de tout son cœur. Il y avait plus de 40 ans qu'ils ne s'étaient plus vus. Et le Seigneur les amène à se rencontrer. Au moment de la rencontre, ils se réjouissent. Et un peu plus tard, il va critiquer son frère. Ça vient de la part du grand frère Aaron, à propos duquel il est écrit en Exode 4, 27, quand ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés. Donc voilà pour dire de la part de qui viennent les reproches. De Myriam et d'Aaron. D'Aaron, avec lequel ensemble ils s'étaient présentés devant le Pharaon. Ensemble, ils avaient affronté le Pharaon. Ils avaient affronté toute sa cour, tous les magiciens de la cour. Ils avaient aussi ensemble affronté l'incompréhension des Israélites. Vous savez, vous vous rappelez à un moment donné quand Moïse est allé dire à Pharaon que Dieu l'envoyait pour qu'il laisse aller son peuple. Les travaux ont été durcis. Et à un moment donné, les Israélites, ils ont pris Moïse et Aaron en grippe. Il est même écrit qu'ils voulaient les lapider parce qu'on avait aggravé leur charge. Leurs travaux étaient devenus encore plus pénibles. Ce Aaron qui avait supporté tout cela avec son petit frère Moïse, maintenant, eh bien, il en est arrivé à le critiquer. Donc, Moïse est critiqué ici de la part de sa sœur et de son frère. Au chapitre 11, qu'est-ce qu'il est écrit? Ah, vous pouvez le prendre, parce que c'est juste avant si vous avez gardé le texte principal. À partir du verset 4, dans le chapitre 11, il est écrit ceci. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël et trouva des désirs. Ça veut dire qu'ils ont murmuré, qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils ont eux aussi critiqué. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, il nous donnera de la viande à manger. Donc, dans le chapitre 11, c'est le ramassis des gens, des étrangers de toutes sortes, qui avaient accompagné les Israélites, qui critiquent Aaron. Mais ici, dans le chapitre 12, c'est qui? C'est son propre frère, c'est sa propre sœur. Déjà les critiques qui viennent des étrangers, ça fait mal. Mais les critiques qui viennent de son propre frère, de sa propre sœur, ça fait encore infiniment plus mal. Ceci n'est pas dans mes notes, mais je vous demande de lire le psaume, dans le psaume 105. Dans le psaume 105. Quelque chose qui m'avait au verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est pas bien à propos de qui c'est dit, ça. Mais dans les versets précédents, il est écrit par exemple au verset 14 que Dieu Dieu n'a laissé personne les opprimer et il a puni des rois à cause d'eux. Pharaon a été puni. Myriam, elle a été punie. Abraham et Isaac, à un moment donné, en temps de famine, quand ils s'étaient réfugiés en terre païenne, que leur femme avait été volée. Ils ont été punis parce qu'ils avaient touché loin du Seigneur. Ils avaient osé s'attaquer à ceux que le Seigneur avait choisis. Dans le psaume 41, au verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est un psaume prophétique. Il parle du Seigneur Jésus. Mais celui-là avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Jésus a cité cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 18, à propos de la trahison de Judas. Alors on va tout doucement conclure. Et si cela m'arrivait, si j'étais critiqué, si j'étais sali, est-ce que je saurais remettre tranquillement ma défense entre les mains du Seigneur? Il a des choses très encourageantes qui nous sont laissées dans l'Épître aux Hébreux, si cela nous arrivait. En Hébreux 12, versets 17 et 18, il est écrit, Jésus est devenu semblable en tout à ses frères afin d'être un souverain sacrificateur ou un grand prêtre rempli de compassion. Comme il a souffert lui-même, il peut aussi nous secourir. Donc, Hébreux 4:16, approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. J'aimerais bien maintenant de demander à Émile de venir ici. On lui a déjà demandé de venir ici, mais j'aimerais bien qu'il revienne. Je vais sortir de chair. C'est le figurant. Mais tu étais peut-être là quand ce que je vais dire maintenant c'est parti. Donc, dans une église qu'on appelait la mission évangélique belge et que quelqu'un, que certains connaissent ici, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'était Place du Vintou. Le bâtiment n'existe plus, mais la communauté, elle existe encore et se rassemble rue des Croisiers. Donc nous avions entendu dire que on installait un nouveau pasteur qui s'appelait Monsieur Knecht. Et mon papa qui nous entraînait partout avec lui, il avait dit, on va y aller. On va aller à la réunion pour assister à l'installation du nouveau pasteur. On a chanté, on a prié, on a prêché, j'étais un garçonnet, mais il y a quelque chose qui m'est resté, qui m'a vraiment marqué. Et donc le culte était presque terminé, et le frère qui présentait M. Knecht est sorti de chair, je vais le faire maintenant.
Il a pris le nouveau pasteur comme ça, il a dit, je vous confie, ne le tuez pas. Le mec a demandé, je ne sais pas plus tard, c'est du pasteur. Nous, le nouveau cow-boy, le berger, le tuer,
le militaire,
je vous en relis. Horriblement blessé, oui, et la famille le tue.
Et si c'était moi, maintenant, si c'était moi qui avais parlé contre à Moïse, parce que le Seigneur, dans sa bonté, nous en donne des Moïse pour nous conduire, pour nous enseigner. Si c'était moi qui avais parlé contre Moïse, souviens-toi que le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur l'a entendu. C'est consigné dans la boîte noire. C'est consigné dans la boîte noire. Alors c'est grave, mais ce n'est pas désespéré. Alors, comme Jacques le dit, je vais rappeler les musiciens. C'est grave, mais ce n'est pas désespéré. Il y a une solution que nous allons chanter dans le cantique numéro 119.